Presque tout le monde reconnaît que jurer avec le nom de Dieu, c'est mal faire. Par contre, ces mêmes gens prendront son nom très librement avec « Oh mon Dieu !» ou « Le bon Dieu ceci et le bon Dieu cela ». C'est tellement répandu que personne n'y prête attention. Mais qu'on ne s'y méprenne, Dieu, lui, le remarque et il n'apprécie pas du tout qu'on le mélange à nos petites affaires minables parce que son nom est grand et sa gloire immense, comme l'attestent tous les auteurs sacrés et surtout les prophètes. Ézéchiel, par exemple, a vu la gloire de Dieu à plusieurs reprises tout au long de son ministère. Je continue à lire dans le chapitre 3 de son livre. « La main de l'Éternel fut encore sur moi en ce lieu et il me dit « Lève-toi ». Sors vers la vallée, et là je te parlerai. Je me levai donc, et je sortis vers la vallée. Et voici que la gloire de l'Éternel se tenait là, identique à la gloire que j'avais contemplée près du fleuve Kébar. Alors je tombai la face contre terre. » Versets 22 et 23. Ézéchiel a déjà donné une description détaillée de la gloire de Dieu qui était fantasmagorique, c'est le moins qu'on puisse dire. Le roi David définit la gloire divine en termes qui nous sont plus accessibles. Il écrit « Éternel notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Au-dessus du ciel, on célèbre ta splendeur. Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. L'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. La beauté, la puissance et la complexité qu'on rencontre partout dans l'univers crient la gloire de Dieu. » Un autre prophète décrit l'Éternel qui vient en habit écarlate drapé avec splendeur et qui s'avance fièrement dans l'éclat de sa force. Et puis, qu'on l'accepte ou pas, la création de l'homme fut son chef-d'œuvre. Pour les scientifiques, par contre, notre origine est moins noble. Quand j'étais sur les bancs de l'école, j'ai appris que je descendais du singe. Depuis, on a évolué, mais je ne sais pas trop dans quel sens, puisque j'ai récemment lu que nous avons beaucoup de points communs avec les mycoses, des champignons microscopiques. Si l'apôtre Paul était encore parmi nous, je suis sûr qu'il dirait « Depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. » Les hommes n'ont donc aucune excuse, car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre l'honneur que l'on doit à Dieu et de lui exprimer leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Ils se prétendent intelligents, mais ils sont devenus fous. Fin de citation, je continue le texte. « Mais l'Esprit, dit donc Ézéchiel, entra en moi et me fit tenir debout. » Il me parla et me dit « Va t'enfermer dans ta maison. Or, fils d'homme, on viendra te mettre des cordes pour te ligoter de sorte que tu ne pourras plus sortir au milieu de tes compatriotes. » Versets 24 et 25. Il ne s'agit pas de cordes au sens littéral du mot, mais de contraintes psychologiques et spirituelles que l'Éternel impose à Ézéchiel afin de limiter ses sorties et ses prédications. Il n'est donc pas libre de prêcher où et quand il veut. Cette réclusion signifie que Dieu a rejeté son peuple le temps de sa captivité. Je finis le chapitre 3. « Je collerai ta langue à ton palais et tu seras muet. Ainsi tu cesseras d'intercéder pour eux, car c'est un peuple rebelle. Mais quand je te parlerai, je t'ouvrirai la bouche. Alors tu leur diras. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Celui qui veut écouter, qu'il écoute. Et celui qui refuse d'écouter, qu'il n'écoute pas, car c'est une communauté rebelle. » Versets 26 et 27. Tout comme Jérémie, Ézéchiel reçoit l'ordre de ne pas intercéder pour le peuple, ni sans doute de consulter l'Éternel pour lui, des rôles qui étaient normalement assumés par les prophètes. Ézéchiel ne pourra parler que lorsque Dieu le lui ordonnera et les Israélites qui voudront connaître la parole de Dieu devront se rendre dans sa maison et l'écouter s'il parle ou observer ses actes symboliques. Nous arrivons au chapitre 4, dans lequel Ézéchiel, toujours par des mimes prophétiques, annonce le siège de Jérusalem, la prise de la ville et l'exil qui suivra. Le prophète va tantôt jouer le rôle d'assiégeant, tantôt celui d'assiégé. Je commence à lire. « Et maintenant, fils d'homme, Prends une brique, pose-la devant toi et grave dessus le dessin d'une ville, Jérusalem. Ensuite, tu mettras le siège devant elle. Tu construiras contre elle des terrassements. Tu élèveras contre elle des terrasses de siège. Tu construiras des campements en face d'elle et tu disposeras tout autour d'elle des machines de guerre. Verset 1. Les briques à bâtir servaient aussi de support pour dessiner ou écrire. Quand elles avaient encore la consistance de la pâte à modeler, on y gravait des signes puis on les cuisait pour conserver l'écrit. On a retrouvé des milliers de briques de ce genre à Ninive et à Babylone. Ézéchiel va devoir réaliser plusieurs actes symboliques destinés à attirer l'attention de ses contemporains et à leur transmettre un message de Dieu. Il travaille avec une pâte encore molle sur laquelle il peut dessiner ce qu'il veut et qu'il a peut-être aussi utilisé pour fabriquer divers objets afin de bien représenter en miniature à quoi ressemblera le siège de Jérusalem. Ici, Ézéchiel est l'assiégeant pour montrer que l'Éternel, dont il est le serviteur, est le véritable auteur de cette attaque contre la ville sainte. Je continue. « Puis tu prendras une plaque de fer, tu la disposeras comme un mur de fer entre toi et la ville, et tu tourneras ta face contre elle. La ville sera en état de siège, et c'est toi qui l'assiégeras. Tout cela devra servir de signe à la communauté d'Israël. » Verset 3. La plaque de fer est une sorte de poêle à frire. Le prophète en fait un mur entre lui et la ville assiégée qu'il a représentée. Cette image signifie que rien ni personne ne pourra arrêter ce malheur et secourir la ville. Sa ruine est donc résolue et inévitable. Je continue. Couche-toi ensuite sur ton côté gauche. Étant sur ce côté, tu prendras sur toi le péché de la communauté d'Israël. Tu porteras leur péché autant de jours que tu seras couché sur ce côté-là. Je te fixe moi-même un nombre de jours équivalent au nombre d'années durant lesquelles le royaume d'Israël a péché, c'est-à-dire 390 jours. Ainsi, tu porteras le péché de la communauté d'Israël. Après la fin de cette période, tu te coucheras cette fois sur le côté droit et tu porteras le péché du royaume de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année où il a péché. Versets 4 à 6. Porter le péché signifie en subir le châtiment, et c'est ce que va faire Ézéchiel de façon symbolique, bien sûr. Dans les Écritures, le côté droit est censé posséder une dignité supérieure au côté gauche. Voilà pourquoi le premier représente Juda et le second le royaume israélite des 10 tribus du Nord. Lorsque ce dernier fut conquis par les Assyriens, beaucoup trouvèrent refuge chez leurs frères du sud où ils furent assimilés au royaume de Juda. Chaque jour représentant une année, les 390 jours correspondent en gros à la période allant de l'infidélité du roi Salomon à la destruction de Jérusalem. Quant aux 40 jours pour Juda, ce chiffre est plutôt symbolique. Dans les Écritures, 40 représente l'épreuve ou le jugement. Jésus a jeûné 40 jours dans le désert où il fut tenté par le diable et la pérégrination des Hébreux dans le désert dura 40 ans. En ajoutant 390 à 40, on obtient 430 qui, assez curieusement, correspond au temps d'esclavage du peuple hébreu en Égypte. Je continue le texte. Tu tourneras ta face et ton bras nu contre Jérusalem assiégée et tu prophétiseras contre elle. Je vais te lier avec des cordes pour que tu ne puisses pas te tourner d'un côté sur l'autre jusqu'à ce que tu aies achevé ta période de siège. Versets 7 et 8. Chaque jour, Ézéchiel prophétisait contre Jérusalem tout en adoptant une attitude menaçante contre elle. Puis, il se couchait sur un côté pendant quelques heures et entrait alors dans un état de transe qui lui permettait de rester cloué sur sa paillasse sans bouger et sans être mal à l'aise. Je continue. « Et maintenant, prends du blé, de l'orge, des fèves, des lentilles, du millet et de l'épeautre. Mets le tout dans un même récipient et fais-en ta nourriture. » C'est là ce que tu mangeras tout au long des 390 jours où tu seras couché sur le côté. Verset 9. C'est le troisième signe prophétique. Les galettes de pain étaient généralement confectionnées avec de la farine de froment. Les 5 autres espèces de grains mentionnées n'étaient utilisées qu'en période de disette. Le sens de ce passage est évident. Israël, en état de siège, puis déporté, sera réduit à la misère, ce qui l'obligera à se nourrir de tout ce qui est comestible, bon ou pas. Je continue. Ta ration journalière de nourriture sera de 20 sicles, c'est-à-dire environ 320 grammes, et tu en consommeras de temps en temps. L'eau te sera mesurée à 1/6 de 1 par jour, soit un peu moins d'un litre. Tu en boiras de temps en temps. Versets 10 et 11. 320 grammes de nourriture par jour, ça fait pas beaucoup, même dans les pays chauds, où on mange moins que sous nos tropiques. À peine 1 litre d'eau par jour, quand il fait une chaleur accablante, c'est une recette pour se déshydrater. Ces portions réduites indiquent un temps de pénurie dû au jugement de Dieu. Je continue le texte. Tu prendras ta nourriture sous forme de galettes d'orge que tu cuiras devant tout le monde sur un feu alimenté avec des excréments humains. Et l'Éternel ajouta, c'est ainsi que les Israélites mangeront leur pain impur au milieu des nations où je les chasserai. Verset 12. En Orient, on faisait cuire le pain sur des pierres brûlantes et lorsqu'il n'y avait pas de bois disponible, on utilisait pour combustible des crottes de bétail séchées. Mais Dieu parle ici d'excréments humains, ce qui est particulièrement repoussant, surtout pour un prêtre israélite comme Ézéchiel, car sous la loi, les excréments étaient considérés comme impurs et celui qui les touchait devenait lui-même impur. Je continue. Je m'écriais, « Ah, Seigneur éternel, depuis mon enfance jusqu'à ce jour, je ne me suis jamais souillé en mangeant d'une bête crevée ou déchirée par un fauve, et aucune viande impure n'a pénétré dans ma bouche. » Il me répondit, « Voici, je te donne des excréments de bœuf au lieu d'excréments humains, et tu feras ton pain dessus. » Versets 14 et 15. Voltaire s'est moqué de ce passage en prétendant que Dieu avait ordonné à Ézéchiel de manger des excréments. Mais il s'est couvert de ridicule parce qu'il a négligé de lire le mot « dessus » à la fin du verset. « Tu feras ton pain dessus ». Quoi qu'il en soit, Dieu tient compte de la sensibilité de son prophète et l'autorise à utiliser de la bouse. Les prêtres, fidèles à l'Éternel, comme Ézéchiel, n'étaient pas capables de concevoir que Dieu, qui avait donné la loi, pouvait la changer à son gré à tout moment. En fait, même l'apôtre Pierre a eu beaucoup de mal à l'accepter. Je finis le chapitre 4. Dieu me dit encore, « Fils d'homme, je vais supprimer toute réserve de pain dans Jérusalem. Ses habitants mangeront dans l'angoisse du pain strictement rationné, et ils boiront dans la détresse de l'eau en quantité mesurée. Ils manqueront de pain et d'eau, ils seront tous ensemble épouvantés, et ils dépériront à cause de leurs péchés. » Versets 16 et 17. Ces menaces se rapportent à la détresse des habitants pendant le siège de Jérusalem qui sera suivi par l'exil. Nous arrivons au chapitre 5 qui continue avec un nouveau mime prophétique. Je commence à le lire. « Écoute, fils d'homme, prends une épée affilée et serre-t'en comme d'un rasoir. Rase-toi la tête et la barbe. Prends ensuite une balance et fais plusieurs parts des poils et des cheveux que tu auras coupés. » Verset 1. Se raser tête et barbe signifiait le déshonneur et le deuil. Ézéchiel représente le peuple et l'action du rasoir sur sa personne décrit le châtiment de Dieu sur les habitants de Jérusalem. Les balances sont l'emblème de la justice de Dieu qui assignera à chacun le jugement qu'il mérite. Je continue. Quand le temps du siège sera révolu, tu en brûleras 1/3 dans le feu au milieu de la ville, tu prendras 1/2 et tu le frapperas de ton épée tout autour de la ville. Enfin, tu disperseras le dernier tiers au vent, et moi je les poursuivrai de mon épée. Verset 2. L'explication de cette prophétie mimée est précisée plus loin, je la lis. 1/3 des habitants de la ville mourra de la peste ou périra de faim dans vos murs. 1/3 tombera, frappé par l'épée, aux alentours de la ville, et le dernier tiers je le disperserai à tout vent et je le poursuivrai avec l'épée. Un tiers des habitants de Jérusalem périra dans la ville, un autre tiers sera donc massacré dans les campagnes, et le troisième partira en captivité. Mais une partie de ce dernier tiers sera également tué. Je continue le texte. Cependant, tu prélèveras une petite quantité de ses cheveux et tu les serreras dans les poches de ton manteau. De ce reste, tu prendras encore une partie que tu jetteras dans le feu pour les brûler. La flamme qui en jaillira s'étendra à toute la communauté d'Israël. Versets 3 et 4. La petite quantité de cheveux représente un petit reste du peuple qui sera purifié par la destruction du royaume de Juda. Il sera conservé puis ramené au pays après l'exil. Mais ces Israélites, à nouveau installés en Palestine, devront passer par un second baptême du feu, un jugement postérieur à l'exil qui s'étendra à toute la nation. Je continue. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Voilà Jérusalem. Je l'avais placée au milieu des nations avec de vastes contrées autour d'elle. Verset 5. Géographiquement, la ville sainte était située au centre du monde antique, aux portes de l'Asie, de l'Afrique et de l'Europe. Spirituellement, Jérusalem aurait dû être un foyer de bénédiction pour toutes les nations. Je continue. Mais elle s'est révoltée contre mes commandements avec plus de perversité que les autres nations. Elle a violé mes lois plus que les pays qui l'entourent, car ses habitants ont méprisé mes commandements et n'ont pas suivi mes lois. C'est pourquoi le Seigneur, l'Éternel, déclare « Parce que vous avez été plus rebelles que les nations qui vous entourent, que vous n'avez ni obéi à mes lois ni appliqué mes commandements, que vous n'avez même pas agi selon le droit des peuples qui vous entourent, à cause de cela, moi, le Seigneur, l'Éternel, je vous dis, je vais me tourner contre vous, j'exécuterai au milieu de vous ma sentence sous les yeux des nations. » Versets 6 à 8. Au lieu d'être un modèle de sainteté pour les autres peuples, Jérusalem a été pour eux un objet de scandale. Les nations païennes ne connaissaient ni le vrai Dieu ni sa loi. Donc, quand ils agissaient mal, ils n'étaient pas en révolte ouverte contre Dieu. Mais le peuple élu s'est rebellé contre l'Éternel en toute connaissance de cause. À partir du moment où il s'est détourné de la loi de Moïse, il était sans loi, tandis que les nations païennes, elles, au moins, suivaient leur propre loi et de plus, elles restaient fidèles à leur fausse divinité, alors qu'Israël avait abandonné le vrai Dieu pour servir les idoles des peuples étrangers. Je continue. À cause de toutes vos abominations, j'agirai contre vous comme je ne l'ai jamais fait et comme je ne le ferai plus jamais. Verset 9. Cette destruction quasi complète qui sera opérée par les Babyloniens est la seule dans les annales d'Israël en tant que peuple de Dieu. En effet, après la mort et résurrection du Christ, le peuple de Dieu n'était plus Israël, mais l'Église. Je continue. Ainsi, au milieu de vous, des pères dévoreront leurs propres fils et des fils mangeront leurs pères. J'exécuterai mon jugement contre vous et je disperserai à tout vent ce qui restera de vous. Verset 10. On trouve une partie de cette malédiction dans le livre de la loi, mais ici, elle est aggravée par une précision nouvelle et particulièrement horrible, des fils dévorant leurs pères. Je continue le texte. « C'est pourquoi, aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Éternel, puisque vous avez souillé mon sanctuaire par toutes vos idoles répugnantes et abominables, je passerai le rasoir sur vous sans un regard de pitié et j'agirai sans ménagement. » Verset 11. « Parce que Jérusalem possédait un temple dédié entièrement à l'Éternel, les idolâtries commises dans le pays le souillaient. Combien plus les outrages à la sainteté du sanctuaire lui-même. À lire toutes ces paroles de jugement, on se rend bien compte de la culpabilité démesurée d'Israël. Je continue. Je donnerai libre cours à ma colère et je ferai peser mon courroux sur eux. Je leur ferai payer leur trahison et quand j'aurai donné libre cours à ma colère, ils reconnaîtront que moi, l'Éternel, j'ai parlé parce que je ne transige pas avec leur infidélité. Verset 13. L'expression Ils reconnaîtront que moi, l'Éternel, j'ai parlé » revient souvent dans le livre. Comme le peuple refuse d'écouter l'Éternel, c'est par des châtiments qu'il se fait entendre. Je finis le chapitre 5. « Je te réduirai à l'état de ruine, Jérusalem, et tu porteras le déshonneur parmi toutes les nations qui t'entourent, ainsi qu'aux yeux de tous les gens qui passeront par là. Tu seras dans la honte, on te couvrira de sarcasmes, et tu constitueras un avertissement pour les peuples qui t'entourent. Ils regarderont vers toi avec effroi quand j'aurai exécuté mes jugements contre toi dans ma colère et mon indignation, quand je t'aurai châtié dans ma colère. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Je vais décocher contre vous les flèches mauvaises et mortelles de la famine pour vous exterminer. Je rendrai cette famine encore plus implacable et je détruirai toutes vos réserves de pain. J'enverrai contre vous, en plus de la famine, des bêtes féroces qui vous raviront vos enfants. La peste et le carnage passeront au milieu de vous et j'enverrai l'épée contre vous. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Versets 14 à 17. Beaucoup de ces images sont empruntées aux malédictions énoncées dans les livres de la loi. La famine est mentionnée plusieurs fois parce que, en effet, les Israélites en ont beaucoup souffert, non seulement pendant le siège, mais aussi après. Cette destruction de Jérusalem et du royaume de Juda devrait nous rappeler que les jugements de Dieu sont une réalité. Si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. En effet, Dieu déclare dans l'Écriture « Au moment favorable, j'ai répondu à ton appel et au jour du salut, je suis venu à ton secours. Or, c'est maintenant, le moment tout à fait favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut. »